Invitée de la deuxième heure des matins du samedi, Monique Chemillet-Gendreau, bonjour madame.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes juriste, professeure émérite de droit public et de sciences politiques à l'Université Paris Diderot et vous faites paraître en cette rentrée Régression de la démocratie et déchaînement de la violence, qui est une conversation avec Régis Méran qui paraît chez Textuel et qui est une longue réflexion sur la violence, sa résurgence, son émergence. Vous répondiez à la question de Thomas Larabi dans le journal à propos de la crise des Gilets jaunes, que nous assistions aujourd'hui dans notre démocratie à une crise qui n'est pas nouvelle, mais qui a une forme d'expression plus forte, peut-être de violence plus forte. Violence sociale d'un côté, violence policière de l'autre. Des pans entiers, disiez-vous, de la société se considèrent comme exclus. C'est pour cette raison que, en début de semaine, lundi soir, avant un débat sur la politique migratoire à l'Assemblée et au Sénat prévu à la fin du mois, le président de la République a pris la parole devant les parlementaires de la majorité et qu'il a déclaré vouloir regarder en face la question migratoire parce qu'il l'a justifié en disant vouloir renouer avec les classes populaires qui expriment largement la peur de l'autre, de l'étranger, de l'immigré. Et il n'est qu'à regarder la dernière enquête sur les fractures françaises Ipsos-Sopra, qui est une enquête annuelle, pour s'en convaincre. Est-ce que vous avez pensé que ce discours était à même de corriger la crise plus forte qui se manifeste aujourd'hui dans notre société, Monique Chemillet-Gendreau?
Je pense exactement le contraire. Je pense que ça ne va pas améliorer la crise, mais que ça va l'exacerber. Je trouve un peu attristant qu'Emmanuel Macron se livre à cela, lui qui voulait faire du renouveau, etc. Ce sont les vieilles ficelles de la politique qu'il utilise. C'est-à-dire qu'il instrumentalise la question de l'immigration, manifestement, dans la perspective de la course à la présidentielle. Il veut mordre sur l'électorat de Marine Le Pen, c'est clair. C'est une manœuvre. C'est tout à fait regrettable.
Vous dites c'est une manœuvre, et il dit c'est un combat. C'est ma façon de combattre le Front National, de ne pas laisser le Front National seul parler de l'immigration.
Oui, mais parler d'immigration comme il faut, ça devrait être pour à la fois rassurer les Français et les encourager. Les rassurer parce que l'immigration n'est pas le danger qu'on raconte. Marine Le Pen a l'art de gonfler le problème. Il y a eu des moments dans l'histoire où il y a eu des afflux de réfugiés en Europe. Angela Merkel en a été l'actrice au moment en 2015 où les réfugiés syriens sont arrivés en très grand nombre en Europe. Mais en dehors de moments de très graves crises qui entraînent un afflux particulier et considérable d'immigrés, l'immigration ordinaire, si je puis dire, ne nous menace pas. Le continent européen a une capacité d'accueil et même, selon des organismes de l'ONU, une nécessité d'accueil, puisque la population est déclinante et que l'avenir fait que nous sommes tout à fait capables d'accueillir de nombreux étrangers et de les intégrer à nos sociétés. Donc il faudrait rassurer les Français sur l'absence de danger et les encourager quand il y a tout d'un coup une crise migratoire forte, comme Angela Merkel l'a connue, il faut les encourager à être accueillants parce que il faut comprendre que dans le monde d'aujourd'hui, les barrières nationales n'ont plus de sens. Il y a 5 siècles que l'Europe a ouvert le monde, à partir des grandes découvertes du colonialisme, etc., et du commerce mondial. On a ouvert le monde par le commerce, par la finance, par les médias. Et on refuse de l'ouvrir pour ce qui est des échanges de population. Ou plutôt, on l'ouvre à sens unique. Parce que dans les accords de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pour ce qui est des échanges de services, les banques, les assurances, etc., dans les accords de commerce, quand elles vont s'installer dans un pays étranger, peuvent amener leurs salariés. Mais c'est pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour les pays du tiers-monde, il n'y a rien d'équivalent. Donc, on est là devant une poursuite de la domination occidentale, ou un essai de poursuite, parce que l'affaire est perdue d'avance. Et je trouve vraiment attristant, c'est le mot que quelqu'un comme Emmanuel Macron, mais avant lui, ça avait été pareil. Moi, j'avais eu des débats avec certains hommes politiques dans les années 90, à qui je demandais de tenir un discours vrai, de vérité, et ils me répondaient, nous ne pouvons pas, parce que si nous perdons les élections, nous penserions toujours que c'est à cause de ça.
Quand il dit « regardez en face la question migratoire », est-ce que vous ne pensez pas, comme Vincent Trémollet-de-Villers dans son éditorial du Figaro il y a quelques jours, qu'en effet, l'immigration, c'est un tabou français. On n'arrive pas à mettre des mots, vous parlez de discours de vérité. L'instrumentalisation vient après, dans la politique qu'on mène, mais mettre des mots sur les choses.
Oui, mais quels mots voulez-vous mettre? Les mots y sont. Il y a une immigration, c'est surtout les chiffres qu'il faut regarder en face. Nous n'avons pas du tout les afflux massifs dont on parle. Oui, il y a une augmentation du nombre des demandeurs d'asile, mais nous avons la capacité de les accueillir et le devoir. Et le devoir de les accueillir. Donc c'est ça, c'est le mot qu'il faut mettre. C'est ça.
Vous dites qu'il faut rassurer les Français. Et effectivement, quand je citais cette grande enquête sur les fractures françaises 2019, ce qui ressort, c'est qu'une majorité des sondés estiment que la mondialisation est une menace pour la France, que le pays doit se protéger davantage, que les immigrés ne font pas d'efforts pour s'intégrer. Que pensez-vous de ces résultats ?
Mais je pense que les immigrés font des efforts pour s'intégrer dans la mesure où on leur permet. Mais ce qui manque à nos sociétés, c'est ce que la Boétie appelait l'entre-connaissance. Les immigrés nous connaissent beaucoup mieux que nous ne les connaissons. Nous avons peur d'eux parce que nous ne les connaissons pas. Et quand Emmanuel Macron essaye de faire une distinction entre les classes sociales françaises, il y aurait les bourgeois...
Classe populaire et classe bourgeoise.
Les bourgeois qui, de loin, ne seraient pas contre, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'immigration, ils ne vivent pas à côté d'eux. Et puis les pauvres classes populaires qui supporteraient... Chirac avait déjà parlé des odeurs à une époque, et ça avait fait un scandale, en parlant de la promiscuité avec des étrangers. Mais c'est la méconnaissance de l'autre qui crée la crainte. La Boétie disait que nous, les humains, comme nous sommes faits sur le même moule, nous devrions nous entre-connaître. Les immigrés nous connaissent bien parce que d'abord, beaucoup d'entre eux viennent d'Afrique, des pays que nous avons colonisés, donc ils ont une longue connaissance de notre histoire. Leurs pères et leurs grands-pères ont été engagés dans les armées françaises pour les deux guerres mondiales. Ils se sont battus vaillamment, on les mettait en première ligne dans les combats difficiles. Et ils nous connaissent quand ils sont immigrés, qui viennent en France, ils apprennent très vite à connaître nos codes. Et nous les ignorons complètement. Dans les milieux où on s'occupe des immigrés, des milieux que j'ai fréquentés, que je fréquente encore, on les connaît, donc on n'en a pas peur. Une fois qu'on établit l'entre-connaissance, qu'on parle avec eux, oui, ils ont des modes de vie différents, oui, ils ont des approches différentes de certaines choses, mais c'est un enrichissement que nous
faisons. Donc, travailler sur l'immigration de la façon dont le gouvernement l'envisage, Monique Chemillet-Gendreau, pour vous n'est pas une réponse à cette exclusion ou ce sentiment d'exclusion, pour reprendre vos termes, de pan entier de la société. Le problème est ailleurs pour vous. Et il est où le problème? Elle naît d'où la violence?
La violence ne naît pas de l'immigration. La violence dans nos sociétés naît du fait que dans l'histoire des sociétés humaines, et notamment européennes modernes, on a décidé, c'est l'expression de Max Weber, que l'État détenait la violence légitime.
Le monopole de la violence légitime.
Le monopole. Alors, ça, c'est une construction idéale qui suppose que l'État soit véritablement l'instrument, l'institution représentative de tous. Or, ce n'est pas ça que nous avons. L'État, alors on peut employer des formules qui étaient des formules marxistes, mais on peut aussi employer des formules beaucoup plus classiques. Un grand professeur comme Georges Burdeau ne disait rien d'autre que quand il disait que l'État, c'est une force politique et sociale qui a réussi et qui s'empare de l'appareil d'État. Donc nous n'avons pas du tout un État qui représente tout le monde, nous avons un État qui, en prenant le pouvoir, le confisque au profit d'un groupe. Et donc la crise politique, elle naît de là. La démocratie, puisqu'on dit que...
C'est une crise politique plus qu'une crise sociale pour vous, donc, ce que nous vivons aujourd'hui.
Oui, c'est une crise politique, oui, absolument. Enfin, la crise sociale vient avec, mais c'est une crise politique. Parce que nous prônons la démocratie, nous en faisons une sorte de modèle absolu. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Nous l'avons réduite à des formules procédurales ou instrumentales, le suffrage universel, le multipartisme, la séparation des pouvoirs, tout ce que Montesquieu avait décrit admirablement. On a réduit la démocratie à cela. Or, ce sont des conditions, je ne dis pas qu'il ne faut pas passer par là, ce sont des conditions tout à fait indispensables à la démocratie. Mais à certaines conditions qui ne sont pas réunies. Ces conditions, c'est d'abord que l'éducation et la culture soient orientées à cela, et on en est loin. Et ensuite, c'est que ces conditions, aujourd'hui, sont corrodées par la question de l'argent. Et on voit bien que dans les élections, si on n'a pas les moyens de mener une campagne électorale, on n'y arrive pas. La question de l'argent et la question des médias, de la dérive des médias, et des réseaux sociaux.
Mais c'est aussi, Monique Chemillet-Gendreau, et pardon de vous interrompre, quand on regarde l'actualité de ces dernières années, la question sociale, économico-sociale, et, pardon de le redire, mais la question migratoire. On sait bien que c'est ce qui a permis aux populistes qui nous entourent aujourd'hui d'être élus un peu partout, que l'on pense aux États-Unis, que l'on pense à la Hongrie, que l'on pense à l'Italie, etc., que l'on pense aussi au Brésil. Cette question-là a été au cœur. Je ne veux pas revenir sur la question.
Mais est-ce que
on peut remonter à l'État, et à Hobbes et à Max Weber, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est des choses qui
vont changer. Mais est-ce que c'est la question migratoire ou la représentation de la question migratoire ?
C'est la question que je vous pose.
Eh bien, moi, je dis que c'est la représentation. Et il faut combattre cette représentation-là. Pour deux raisons. La première, c'est que ça n'est pas aussi dangereux qu'on le dit, en tout cas pas immédiatement, et que si à terme le mouvement s'amplifiait, car il va s'amplifier avec la question climatique, nous devons nous préparer à l'accueil, et non pas au refus.
Et c'est pour se préparer à l'accueil, aux bonnes conditions d'accueil, que le gouvernement justifie le débat qui va avoir lieu dans 15 jours. Mais pour l'instant, l'idée est de poser les termes du débat. Hein. Oui. Mais je voudrais qu'on avance sur cette crise politique dont vous cernez les contours, Monique Chemillet-Gendreau. Parce que c'est pareil, si on prend ces derniers jours, par exemple, c'est les résultats d'élections qui ont eu lieu un peu partout, Par exemple, on a vu ces derniers jours une crise politique en Italie, avec Matteo Salvini qui aurait perdu son pari, mais qui a quand même réussi à créer une crise politique. En Espagne, on a pu voir qu'on devait retourner aux élections parce que les élections législatives n'avaient pas donné une majorité. C'est ce qui s'est aussi passé en Israël. Aucune majorité ne s'est dessinée cette semaine pour Netanyahou. En France, on est aux prises depuis un an avec une crise des gilets jaunes. En Grande-Bretagne, on n'arrive pas à sortir du Brexit. En Tunisie, les résultats du premier tour sont très étonnants. Et puis de l'autre côté, on a des États forts qui se dotent de chefs autoritaires, Russie, États-Unis, Brésil, Hongrie, que reste au milieu. Au milieu, on a des peuples qui réclament leur liberté, qu'on voit ça en Algérie, au Soudan ou à Hong Kong. Comment analyser, avec les mots qui sont les vôtres, avec la philosophie politique que vous déployez dans ce livre, comment analyser cette drôle de situation, finalement, à trois temps ?
Parce qu'il y a une erreur sur la démocratie. On a encouragé la démocratie la plus instrumentale possible. Elle est à bout de souffle. Elle est à bout de souffle, suffrage universel, multipartite, séparation des pouvoirs, ça ne suffit pas dans le contexte actuel. Parce qu'encore une fois, l'éducation et la culture ne vont pas avec, dans le bon sens, je vais y revenir. Et d'autre part, les forces d'argent et la dérive des médias et des réseaux sociaux fait que tout ça est complètement corrodé. Les gens maintenant, vous avez cité l'Italie, vous avez cité la Hongrie, veulent, croient vouloir la démocratie, mais à l'intérieur d'un groupe de gens identiques, les mêmes, ceux-là. Cette nation-là, avec ces natifs-là. Et ça, c'est d'un danger extrême, parce que le monde est déjà mêlé. Et la démocratie, c'est pas ça du tout. La démocratie, c'est le multiple, c'est pas le même. Par principe même, la démocratie, c'est l'acceptation de tous. Les origines de la démocratie, je remonte pas jusqu'à la Grèce, mais à la Renaissance, quand quelqu'un comme Machiavel parle de la démocratie, il parle du tumulte à Florence. C'est-à-dire de la conflictualité. La démocratie, ça n'est pas être tous d'accord parce qu'on est tous pareils. La démocratie, c'est être tous d'avis divergents parce que nous sommes tous pluriels.
Nous vivons dans une époque violente et il faudrait que nous rétablissions la conflictualité. Vous allez nous expliquer, Monique Chemillet-Gendreau, après la chronique de Matteo Caranta, comment on peut rétablir la conflictualité pour retrouver l'essence même de nos démocraties. Il est 8h30 sur France Culture.
France Culture, les matins du samedi. Caroline Brouet.
Bonjour Matteo Caranta.
Bonjour Caroline.
C'est l'heure de votre à propos d'ailleurs, une histoire qui s'est passée loin de chez nous et en l'occurrence vous nous emmenez en Sibérie.
Oui, c'est l'histoire d'un chaman, russe. Il s'appelle Alexandre Gabitchev et il a entamé un périple à travers la Russie avant que la Russie ne le rattrape. Son ambition, elle était pourtant modeste, exorciser Vladimir Poutine.
Rien que ça, oui.
C'est une histoire à première vue saugrenue, mais qui pourrait avoir des conséquences politiques inattendues. Alors il faut imaginer Alexandre Gabitchev en chaman guerrier, cheveux longs, la cinquantaine, barbichette peu fournie, tunique militaire, laissant voir un t-shirt Che Guevara délavé et rentré, comme il se doit, dans le pantalon. En mars dernier, il décide donc de partir de Sibérie à pied, destination Moscou. Il tire une carriole avec ses affaires personnelles et un petit groupe de sympathisants l'accompagne. On l'arrête sur la route. Il pose avec les familles et les camionneurs qui veulent un selfie avec le chaman le plus connu de Russie. On lui demande conseil, on questionne ses ambitions, on lui donne de l'argent ou à manger. Certains lui racontent au passage les malheurs de la Russie de Poutine. Parce que Gabitchev se sent investi par une mission divine. Vladimir Poutine serait habité par un mal qui se répand sur tout le pays et dont il compte le délivrer. Pour le chaman, la sorcellerie peut réussir là où la politique échoue inlassablement. Seulement voilà, ce qui ressemble à une satire politique digne d'une pièce de théâtre est en fait bien réel. C'est un réel très palpable qui est tombé dans la nuit de jeudi sur les épaules du chaman quand un groupe de 40 policiers armés est venu le cueillir dans sa yourte. D'abord accusé de meurtre, on a appris hier qu'il a été emmené dans un hôpital psychiatrique de sa région d'origine. Retour à la case départ pour Gabitchev. Mais l'opposition s'est vite emparée de cette histoire qui a pris une tournure politique. Sur Twitter, l'un des principaux opposants au Kremlin, Alexei Navalny, a ironisé, je cite, sur le grand Poutine et ses immenses pourcentages de soutien terrorisés par un chaman yakout. Le militant anticorruption empêché de se présenter aux élections partielles du 8 septembre dernier s'est indigné des pratiques du pouvoir dignes et, je cite, toujours des pratiques soviétiques aux pires heures du KGB. On enferme un opposant sous prétexte qu'il est fou. Il n'y a effectivement pas vraiment de quoi rire. Alors Caroline, Vladimir Poutine a-t-il peur des chamans ?
C'est une question.
C'est une question et elle n'est pas aussi futile qu'on pourrait le penser. Il y a bien un potentiel subversif dans le chamanisme. Parce que le chaman, en plus de dialoguer avec l'invisible, avec le monde des animaux ou des rivières, transforme notre rapport à l'imaginaire. L'ethnologue Charles Stepanov, qui a publié un livre sur le chamanisme sibérien il y a quelques semaines, explique que le chamanisme nous invite à faire de l'imagination et du rêve un mode de communication. Une imagination active qui pourrait concevoir un autre système politique et en faire rêver plus d'un sur la route du chaman Alexandre Gabitchev. Autant de dangers que la démocratie toujours plus autoritaire de Vladimir Poutine se garde bien de tenter.
Fut un temps, mais vous n'étiez pas né, où on parlait d'imagination au pouvoir. Monique Chemillet-Gendreau, l'imagination, c'est ce dont on manque aujourd'hui dans nos démocraties ?
Oui, l'imagination manque. Enfin, je ne sais pas si elle manque, parce que elle se manifeste quand même, mais elle n'est pas prise en compte. C'est la question de la conflictualité dont on parlait il y a un instant. La démocratie, avec les recettes dont j'ai parlé, est nécessaire mais n'est pas suffisante, parce qu'il faut qu'au-delà de ça, se répande dans le corps social l'acceptation de la pluralité, l'acceptation du multiple, et non pas la recherche de l'identique. Et cette acceptation du multiple, pour que ça soit imprégné dans l'ensemble de la société, il faut des institutions libératrices.
On n'en a pas. On n'en a plus.
L'école, par exemple. Prenons l'école. Pour qu'une l'école soit une institution véritablement libératrice, vous savez dans quel état sont nos écoles primaires, par exemple, avec nos instituteurs parmi les plus mal payés des pays développés. Pour que l'école fasse joue son rôle libérateur, c'est-à-dire apprenne nos enfants la liberté, le respect de l'autre et l'acceptation des différences, et non pas la réduction des différences. Il faut avoir des maîtres respectés, bien payés, insérés socialement. Quand on voit comment l'éducation nationale essaye de régler avec des bouts de ficelle le problème du manque d'instituteurs, on voit bien que la France, si les Français ont un sentiment de déclin, c'est dû à des choses comme ça.
Donc l'école, quoi d'autre ?
L'école d'abord, la culture ensuite. Mais les institutions libératrices, par exemple, je pense à l'inspection du travail. Moi j'appartiens à une génération, parce que j'ai un certain âge, dans laquelle le combat pour les progrès du droit du travail était un objectif social important. Et il y avait eu des apports formidables quand même, avec les grandes lois sociales d'après la guerre, etc. Et avec l'inspection du travail, qui était là justement pour surveiller de près les entreprises et qu'elles appliquent le droit social. Or, l'inspection du travail n'a fait que se rabougrir, il y a de moins en moins d'inspecteurs, elle ne joue plus son rôle, et nous avons des crises sociales dans lesquelles tout se joue dans le jeu capitaliste.
Donc d'une certaine façon, puisque votre livre s'intitule « Régression de la démocratie et déchaînement de la violence » et qu'on se demande en quoi ce sont deux phénomènes concomitants, pour vous, la violence, c'est l'échec de la politique, Monique Chemillet-Gendreau.
Oui, c'est l'échec de la démocratie comme cœur de la politique. Ça, sans aucun doute. Quand les gens ne sont pas représentés, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos des Gilets jaunes, quand les gens n'ont plus d'autres moyens, ils manifestent. Alors, vous avez cité Hong Kong, l'Algérie, le Soudan, vous avez des sociétés entières qui actuellement, ayant été menées par des dictatures ou des régimes extrêmement autoritaires, n'ont plus que la rue. Alors, nous disons, nous en Europe, ah non, mais nous, nous avons des systèmes démocratiques, vous pouvez vous exprimer dans les urnes, suffrage universel, etc. Ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne pas suffisamment. Il faut, en dessous, parallèlement à cela, revoir l'idéologie d'un peuple et son acceptation de la conflictualité.
Vaste programme, hein ?
Oui, vaste programme, mais commençons tout de suite alors.
C'est ça. Et vous êtes une juriste, Monique Chemillet-Gendreau, qui a pratiqué le droit auprès de juridictions internationales. Donc votre discours vaut pour les États-nations, vaut pour l'Union européenne, mais vaut aussi à l'échelle internationale. En l'occurrence, vous avez plaidé notamment devant la Cour internationale de justice de l'ONU à La Haye. Mardi, s'est ouvert à New York la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est une réunion annuelle. Je ne sais pas si on en attend encore quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que là aussi, vous dites, l'organisation qu'est l'Organisation des Nations Unies est une organisation fatiguée. Finalement, nous vivons une fatigue mondiale. C'est ça votre discours?
Oui, nous vivons une fatigue mondiale, il n'y a pas de doute. Alors, pour l'ONU, c'est éclatant. Hein. L'ONU est à bout de souffle, ce qui n'est pas étonnant parce que l'ONU était basée sur un malentendu. On a cru, on a laissé croire qu'on avait enfin la grande organisation internationale capable d'exprimer une communauté mondiale. Or, vous savez bien que c'est pas ça qui s'est passé. Aucun citoyen d'aucun pays du monde ne considère que l'ONU est sa communauté politique. Or, c'est à ça qu'il faut tendre. Dès lors que le monde est un monde ouvert, dès lors que nous avons des problèmes, évidemment les problèmes climatiques, les problèmes de biodiversité, etc., mais aussi les problèmes de trafic divers, énormément de problèmes sont des problèmes mondiaux. Nous avons besoin d'exister comme communauté politique parce que quand un groupe de gens a un destin commun, il faut que ce destin commun soit géré politiquement. Or, le groupe de gens que représente l'humanité a un destin commun.
Donc, ce que vous dites, Monique Chemillet-Gendreau, dans un cas comme la France, comme dans un cas à l'échelle internationale, c'est que nous ne sommes pas, nous, citoyens, nationaux et mondiaux, assez représentés. D'où votre envie de renverser la donne, puisque ça ne va pas, il faut quand même penser au remède. Ce serait de créer, non pas une assemblée, mais deux. Si on prend le cas de l'ONU, c'est qu'il y ait une assemblée représentant les États, et une autre qui représenterait les peuples.
Oui, c'est, disons que c'est un aspect instrumental d'une possibilité de réforme. Il faut repartir du fondement des choses. L'ONU a été créée après la guerre sur une hypocrisie. Les grandes puissances victorieuses se sont dit, c'est nous des démocraties, nous avons abattu le fascisme, le nazisme, c'est-à-dire l'alliance entre Hitler, Mussolini et le Japon. Nous, c'est-à-dire une alliance un peu contre nature, puisqu'il y avait les pays occidentaux capitalistes et l'Union soviétique communiste. Mais ces cinq-là, ces quatre-là, France, Grande-Bretagne, États-Unis, Union soviétique et la Chine, qui n'étaient pas encore communistes à l'époque, c'est nous qui avons gagné la guerre, nous sommes donc des vertueux, nous avons abattu un régime monstrueux, et donc nous allons faire les Nations Unies, mais nous nous gardons le pouvoir, et nous le gardons définitivement, nous sommes membres permanents, avec le droit de veto. Et ensuite, les Nations Unies prétendent promouvoir la démocratie dans le monde entier. C'est-à-dire que, quand dans un pays, tout d'un coup, il y a une crise, elles viennent à l'appui, elles procurent des urnes pour qu'on fasse des élections. Mais l'ONU est une organisation aristocratique, c'est ça l'aristocratie. Ce sont des gens qui ont le pouvoir et qui considèrent qu'ils l'ont définitivement.
Comment on fait pour ouvrir à d'autres États, à d'autres types de populations?
On ne fait pas.
Mais comment on fait du coup? Parce que vous dites qu'il faut réfléchir, c'est fondamental, on commence par réfléchir avant d'agir.
Je vais vous dire des choses très pessimistes, très pessimistes.
Non, j'attendais autre chose.
L'ONU est bloquée. Toute réforme nécessite le vote des 5 permanents. Donc il n'y aura pas de réforme. Au mieux, ils concéderont un petit changement au Conseil de sécurité, mais sans se départir de leur pouvoir. Donc l'ONU est bloquée, elle ne sert plus à rien.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut attendre ou bien le courage de certains États, parmi les plus petits, mais comme c'est des États clients, ils n'ont pas ce courage pour l'instant, qui demanderaient une vraie réforme. Et pour faire une vraie réforme, il faut quitter l'ONU et aller faire autre chose ailleurs. Ou bien nous laissons venir la catastrophe, ne nous trompons pas, nous sommes sur une poudrière. La crise financière est devant nous, la crise commerciale est commencée et les crises militaires sont là. La poudrière de l'Iran, Israël, l'Arabie Saoudite, tout le Moyen-Orient, l'autre poudrière de la mer de Chine du Sud. Les différentes poudrières sont là, Nous ne savons pas quand et comment ça éclatera, mais nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse. Et ce que l'ONU n'a pas su régler, c'est la question des armements. Quand la Seconde Guerre mondiale s'est terminée et qu'on a créé l'ONU, il y a eu dans la charte un article magnifique qui dit que le Conseil de sécurité veillera au contrôle des armements, à la réglementation des armements, de manière à n'utiliser pour cela que le minimum des ressources économiques et humaines du monde. Le minimum. C'est-à-dire qu'on voulait aller vers très peu d'armement, puisqu'on interdisait le recours à la force, donc il ne devait plus y avoir de guerre. Il ne restait besoin d'armement que pour deux cas. La légitime défense, parce que si un État est attaqué par un autre, il a le droit de se défendre le temps que le Conseil de sécurité soit saisi, et puis les actions militaires de l'ONU. Donc, le monde n'avait plus besoin d'armement. Que s'est-il passé? Jamais le Conseil de sécurité n'a pris cet article en main pour s'occuper de cette tâche qui lui était pourtant dévolue. Et il est dominé par les 5 membres permanents qui sont les plus grands fabricants et marchands d'armes. Donc, voilà la menace extrême devant laquelle nous sommes.
Que peut le droit, vous qui êtes juriste, face à ces menaces, face à cette réflexion, Monique Chemillet-Gendreau?
C'est pas le droit qui peut quelque chose. Le droit n'est que le bras du politique ou le bras de l'idéologie. Par contre, ce qui me donne un peu d'espoir, c'est ce que font des peuples comme les peuples de Hong Kong, d'Algérie ou du Soudan. C'est que dans l'histoire de l'humanité, et c'est là que la thèse marxiste était sans doute insuffisante, ce n'est pas le rapport de force au sens économique et militaire du mot, qui remporte la victoire. La force des idées, la force idéologique, la force des combats qui sont considérés comme justes dans les populations est capable de renverser la table. Donc c'est ça qui caractérise la crise d'aujourd'hui, c'est que, mais ça vient du fait que nous ne sommes pas encore, nous n'avons pas encore totalement digéré et évacué la fin de la crise de la guerre froide. Nous avions deux systèmes opposés, avec un système communiste qui a soulevé beaucoup d'espoir mais qui a mal tourné. Il faut reprendre à la base la notion de bien commun, la notion de démocratie mondiale, la notion de communauté politique, en comprenant que chacun d'entre nous a des appartenances multiples. Actuellement, on réduit tout à l'appartenance nationale, justement avec ces partis populistes qui pondent leurs œufs dans cette niche-là. Il faut arrêter avec ça. Nous sommes à la fois.
Mais qui repose aussi sur l'échec d'un certain nombre de politiques qui envisageaient les choses autrement et qui ont laissé un certain nombre de gens, vous le disiez au début, sur le bas-côté.
Il faut donc reprendre tout ça à la base, accepter le multiple, accepter qu'on est dans une communauté politique locale, celle de la ville, régionale, nationale, continentale, si on est européen et on se sent européen, moi je me sens très européenne, et mondiale, car il faut commencer à se penser comme dans une communauté politique mondiale.
C'est une sorte de révoltez-vous que vous appelez de vos voeux, Monique Chemillet-Gendreau, oui, enfin, avec ce risque que la révolte ne donne pas forcément ce que vous voulez.
Stéphane Hessel avait écrit un petit bouquin qui avait beaucoup de succès, qui s'appelait Indignez-vous. Révoltez-vous, mais les gens se révoltent, de même, il n'y a pas besoin de les inciter à ça. Ce qu'il faut plutôt, c'est préparer la voie à ce que serait un autre monde. Et pour ça, c'est la question du multiple, la question de la différence, la question de l'acceptation de l'autre dans la même société, c'est quelque chose de fondamental. Il y a, par exemple, regardez, nous avons eu en France, il y a quelques années, un débat qu'on n'a plus sur la question du vote des immigrés. C'est passé complètement à la trappe. C'était essentiel pour la démocratie, ça. Ils sont là, ils travaillent là, ils payent des impôts là. C'est incroyable de leur refuser le vote. Au moins aux élections locales et même aux élections nationales. Ils font partie de la société.
Monique Chemillet-Gendreau, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la paix. Vous vous dites dans votre ouvrage que la paix doit être une politique de l'amitié. Vous voulez bien nous expliquer ça en quelques secondes?
Oui, parce qu'on conçoit la paix comme l'absence de guerre. C'est lamentable que c'est triste. C'est simplement parce qu'il n'y aurait pas de guerre. Mais il peut y avoir toutes sortes d'autres problèmes qui ne sont pas des guerres et qui préparent à des guerres d'ailleurs. La paix doit être quelque chose de positif. C'est un monde juste et bon. Il faut travailler à ça, avec la notion de bien commun. Beaucoup d'auteurs en parlent, mais ce n'est pas du tout au programme politique, le bien commun. Au contraire, si vous voulez, il y a quelque chose que le capitalisme... Parlons du capitalisme, car c'est quand même ça la question centrale. Le capitalisme a posé le principe de la loi du marché et du profit comme principe. Et les services publics, le bien commun, une petite exception qu'on essaye de mettre un peu par-ci par-là pour calmer les gens qui le demandent. Il faut inverser les choses. Le principe doit être le bien commun et éventuellement le libre marché en position d'exception.
Monique Chemier-Gendre, nous aussi, au matin du samedi, nous avons une politique de l'amitié. Nous allons accueillir quelques amis pour le dernier quart d'heure de ces matins du samedi. Il est 8h46, restez avec nous, s'il vous plaît, si vous écoutez France Culture.